BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est le coup d'envoi de BFM Patrimoine, vos deux heures quotidiennes d'expertise liées au monde de vos placements. Et on file tout de suite à la bourse, retrouver Antoine Larigauderie qui suit cette première heure de cotation. Je vous sens pas convaincu, Antoine.
Non, mais on s'ennuie comme le début de semaine. Mais on le voit avec Jean-Louis Cussac, avec tous vos spécialistes hein, qu'on égrène toutes les matinées. C'est vrai qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose hein, cette semaine sur le marché parisien. Toujours aussi peu de tendance. Au moins, on tient les supports. Hein. Il y a quelque chose de très, très consistant du côté des 6550. On se maintient, mais on n'a aucun catalyseur pour aller plus haut. Et on sent bien cette fameuse peur de l'approche du point zéro, de celui qui nous ferait revenir sur nos niveaux de début d'année, hein, qui inquiète un petit peu les investisseurs. C'est vrai qu'autour de ça, les marchés sont quand même particulièrement instables, que ce soit le pétrole, que ce soit l'échange. Il y a quand même des doutes aussi du côté de Wall Street, où on a enchaîné les séances de baisse, on s'en est quand même remis hein, hier. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes et un sentiment de marché un petit peu déserté, un petit peu volatile aussi. Et donc, du coup, on a un CAC 40 qui se maintient gentiment au-delà des 6600 points, 6632. On est en léger repli, -0,22%. Et du côté de l'Eurostox, on est quasi inchangé à -0,09%, alors que le DAX à Francfort tente même une percée dans le vert, hein, +0,05%. Mais voilà, on reste quand même assez stressé par tout ce qui se passe autour du pétrole, parce que c'est engagé une véritable spirale baissière qui continue de nous faire taper des plus bas annuels. On est sous les $72 maintenant pour le brut léger américain, 71,93, et le Brent de mer du Nord à 76,60. On perd quand même 20% en un mois sur les prix du pétrole. C'est pas rien, c'est un niveau symbolique quand même très très important. Et en fait, toute cette pression autour du brut provient du brut léger américain parce que on craint que les députés américains ne s'en prennent aux compagnies pétrolières en les forçant quasiment à augmenter leur production pour faire baisser les prix de l'essence du côté des États-Unis. Et autant du côté de l'OPEP, on est sur une politique assez modérée finalement au milieu de ce marché très instable, on craint que les Américains n'enclenchent véritablement la machine de production vers de nouveaux plus hauts et inondent un petit peu le marché de pétrole et fasse baisser les cours. Donc tout ça pèse un petit peu, notamment, singulièrement, sur Total Energy qui perd encore 1,5% ce matin. On est à 55,96 €. On a déjà perdu 4% sur 5 séances. On a également le secteur auto qui n'est pas très bien orienté ce matin avec Renault, -1% à 33,79 € ou Stellantis, -1,95 € à 13,80 €. Et la plus forte baisse du CAC, elle est pour Worldline qui recule de 4,8% à 40,64 €. Alors on se remet sur des valeurs un peu cycliques. À la hausse, on a Saint-Gobain plus 1,47 à 45,88. On a Veolia qui gagne 1% à 24,75. Et puis surtout les valeurs techno qui se portent bien ce matin. STMicro plus 0,6 à 36,65. Même chose pour Dassault Systèmes qui est à 34,70 ou Capgemini plus 0,89 à 169,85 €. Puis mention spéciale pour Ubisoft qui gagne 1,6% à 27,28 €. Évidemment, le groupe ressortirait renforcé d'une annulation de l'opération entre Microsoft et Activision qui constituait quand même le plat de résistance de notre actu du matin. Le CAC, -0,22, 6632, l'euro, 1,0560 $, Cédric.
Antoine Larigauderie, merci beaucoup Antoine. Et tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la succession s'organise chez LVMH. Antoine Arnault est nommé directeur général de la holding qui contrôle le premier groupe de luxe mondial en remplacement de Sidney Toledano. Le fils de Bernard Arnault a aussi été nommé vice-président du conseil d'administration. Un choix qui s'inscrit dans la stratégie qui veut pérenniser le contrôle familial sur les sociétés Christian Dior, LVMH Poitency et Louis Vuitton. L'économie française résiste. Malgré l'inflation, le PIB devrait progresser de 0,1% au quatrième trimestre selon la Banque de France, porté par une hausse de l'activité dans l'industrie, les services et le bâtiment. Pour l'ensemble de l'année, l'institution confirme sa prévision de 2,6% de croissance. Pour l'année prochaine, elle sera faiblement positive et si une récession devait se produire, elle serait temporaire et limitée, nous dit ce matin le gouverneur de la Banque de France. Bruno Le Maire, au chevet du nucléaire ce matin, le ministre de l'économie visite la centrale de Penly avec le nouveau patron d'EDF, Luc Rémont. C'est la première étape de la relance de la filière voulue par Emmanuel Macron. 6 nouveaux réacteurs EPR doivent sortir de terre d'ici à 2040, dont 2 sur le site de Penly. En tout cas, l'appel à la sobriété énergétique semble avoir été entendu par les particuliers et les entreprises, puisque la consommation d'électricité continue de reculer. Elle a baissé de 10% le mois dernier par rapport à novembre 2021, selon EDF. Toujours à propos d'énergie, la grande distribution s'engage à prendre en compte la flambée des factures dans les négociations commerciales en cours, en particulier pour les PME. Un engagement toutefois non contraignant. Écoutez Michel-Édouard Leclerc, il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
On va accepter les tarifs, ça ne veut pas dire qu'on va les répercuter aux consommateurs. Le distributeur a une capacité de faire.
Vous voyez, vous avez encore plein de marge
sur ces marges. Et d'ailleurs, entre nous, le grand industriel aussi. Nous avons décidé hier soir, à la demande d'Olivia Grégoire, ministre des PME, du commerce et de la consommation, de souscrire un engagement pour les PME, pour les petites entreprises. Ouais.
Total Energy se retire du géant gazier russe Novatek, un désengagement qui a un coût. Le groupe annonce 3,7 milliards de dollars de dépréciation au quatrième trimestre. Le pipeline entre Barcelone et Marseille visant à transporter de l'hydrogène devrait coûter au moins 2 milliards d'euros selon Reuters. Ce projet Barmar a été proposé en octobre pour remplacer le projet de gazoduc reliant la Catalogne à la région Midi-Pyrénées, défendu par l'Espagne et le Portugal, mais auquel la France s'oppose car Paris veut produire son propre hydrogène à partir du nucléaire. Et puis Santander écope d'une amende de 125 millions d'euros au Royaume-Uni. La branche britannique de la banque espagnole est accusée de graves lacunes et persistantes dans ses contrôles anti-blanchiment d'argent. Sanction qui n'a pas été contestée par Santander. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve dans une heure pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite on plonge dans le monde de vos placements. Ce sont d'abord les actions qui nous intéressent.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Pépite Zépipo qui accueille ce matin Guillaume Magre. Bonjour Guillaume.
Bonjour Cédric.
Merci d'être en ligne avec nous. Quel est votre choix cette semaine ?
Alors ce matin, j'ai choisi de vous présenter Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, c'est un groupe français et un des principaux acteurs de l'industrie d'éthique. Donc TIC, c'est pour tester, inspecter et certifier. Aujourd'hui, Eurofins, c'est 800 laboratoires et une bibliothèque de plus de 100 000 méthodes d'analyse à destination du biologique. La société, le leader mondial sur le segment des biopharma, et son activité est organisée autour de 4 pôles exclusivement dans le testing, à savoir la pharma, l'alimentaire, l'environnement et la santé et le médical. Le marché d'éthique est un marché qui devrait croître de 3 à 5 % par an jusqu'en 2025, porté par de grandes tendances de fond comme la pression réglementaire sur la qualité et la sécurité des produits, la digitalisation et l'utilisation de technologies de plus en plus complexes et l'écologie. À l'intérieur de cet écosystème, Eurofins nous semble bien positionné pour capter cette croissance. C'est une société qui, en l'espace de 5 ans, a multiplié par 3 son chiffre d'affaires en mixant intelligemment la croissance interne et externe. Et de plus, son positionnement défensif dans une industrie déjà résiliente nous semble également être un atout. Sur le plan financier maintenant, Eurofins, c'est vrai qu'elle paye un peu sa stratégie agressive de croissance externe. Les opérations de M&A pèsent un peu sur la génération de cash et sur la profitabilité comparativement à ses pairs. Et les dépenses de CAPEX sont également un peu importantes. Mais nous considérons que ça représente aussi une vraie barrière à l'entrée, car une société voulant s'implanter devrait investir une somme équivalente en fait pour développer ses laboratoires. Donc maintenant, si on regarde un peu les résultats, comme toutes les valeurs Covid, l'entreprise sort de 2 belles années, ce qui lui a permis de considérablement améliorer sa génération de cash et de ramener son levier à un niveau plus sain. Donc son bilan est désormais beaucoup plus qualitatif. Cette bonne dynamique devrait se poursuivre et permettre à l'entreprise de converger rapidement vers des standards proches de ses pairs. Et donc mécaniquement, le cours de bourse devrait suivre.
Justement, voilà quelques éléments que vous nous proposez ce matin. Et quand on regarde le profil, on va dire, du parcours du titre, bah depuis, on va dire, le mois d'août 2021, c'est un peu la soupe à la grimace. Et même sur l'année qui est en train de se terminer, bah, il faut admettre qu'on est très décorrélé du marché. On perd quasiment 40%. Ça veut dire que, selon vous, aujourd'hui, les choses peuvent s'inverser, le titre peut reprendre de l'altitude ?
Oui, effectivement. Bah, en fait, il y a plusieurs explications au parcours boursier du titre là, sur ces derniers mois. Bah, la première, la principale, c'est une valeur croissance. Donc, elle a subi de plein fouet la remontée des taux. Et bah, voilà, donc ça a pesé très fortement sur le cours de bourse. Après, bah, je l'ai indiqué, c'est une valeur qu'on a catégorisée comme valeur Covid également. Donc, bon, bah, les investisseurs, maintenant, ils veulent se projeter sur l'après-Covid. Donc, on a des attentes sur ce que va être la croissance dans les mois à venir. Mais si on regarde, du coup, les dernières publications sont de bonne facture et la société a plutôt rassuré sur ce point-là puisque la croissance organique ressort au-dessus des attentes. Elle est à 6,7% sur un an et on a une marge d'EBITDA supérieure à 20%. Donc, sur cette partie-là, sur l'après-Covid, je pense que la boîte a plutôt rassuré. Mmh. Donc, c'est pour ça que nous, on estime que ça devrait être dans les mois à venir une valeur qui devrait rattraper son retard. Elle a un peu lagué là ces derniers mois, mais le gap devrait se combler.
On cote 65,48 ce matin, on grignote 0,46%. On est un peu à contre-courant justement de l'indice. De votre côté, vous visez combien ?
De notre côté, nous, on a un objectif de cours à 80 euros.
Bon. Ben voilà, ça fait un bel upside devant Eurofin Scientifique. Donc, merci beaucoup Guillaume Magre, donc GSD Gestion, qui nous accompagnait ce matin sur ce dossier Eurofin Scientifique à 65,48 dans un marché qui lui se replie. Hein, pour le moment, le CAC 40 perd 0,29%. On est à 6035 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Patrice Gautry est en ligne avec nous depuis l'Union bancaire privée à Genève. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous de ce vendredi. Alors, on attend quelques chiffres américains tout à l'heure. Il y aura des prix à la production, il y aura un indice de confiance de l'Université du Michigan, l'un pour novembre, l'autre pour décembre. Bref, des chiffres qui vont nous accompagner vers l'inflation la semaine prochaine. Du coup, qu'est-ce qu'on en attend et quels signaux, quelles anticipations peuvent-ils nous fournir ?
Oui, alors les prix à la production donc publiés cet après-midi pour les États-Unis devraient être un petit peu le préalable de l'indice des prix à la consommation donc attendu la semaine prochaine. Et la tonalité générale et les attentes sont en faveur, je dirais, d'un ralentissement, d'une hausse modérée. Donc on s'attend cet après-midi à une variation mensuelle de simplement 0,2% qui nous ramènerait sur les variations mesurées sur un an, de 8 aux alentours de 7,5%, entre 7 et 7,5%. Donc c'est plutôt, je dirais, la poursuite de la modération qui devrait être reflétée dans ces prix à la production, c'est-à-dire en fait que les pressions inflationnistes commencent à refluer en quelque sorte progressivement. Et puis le deuxième indice de confiance des ménages, alors c'est toujours intéressant de voir un petit peu dans quel mood et dans quel état d'esprit ils sont. Donc cet indice avait fortement baissé, on peut encore avoir un indice qui baisse et c'est attendu comme cela légèrement cet après-midi. Et puis au sein de cet indice, ce sont les anticipations d'inflation qui sont regardées. Elles avaient justifié d'ailleurs il y a quelques mois, je dirais, un commentaire directement de la part de Monsieur Powell. Donc si jamais il y avait des mouvements importants, là on s'attend, je dirais, plutôt à une stabilisation, inflation attendue sur 5 ans aux alentours des 3%, juste en dessous des 3%. Mais s'il y avait bien entendu beaucoup de fluctuations autour de cela, ça pourrait être mentionné par M. Powell au travers de la communication qui sera faite à l'occasion des réunions de Banque Centrale la semaine prochaine.
Voilà donc une introduction toute trouvée, effectivement, vers peut-être la semaine la plus importante de l'année. Ce sera le Noël des banques centrales. Elles seront très nombreuses, hein, mais il y aura notamment la Fed et la Banque Centrale Européenne. Qu'y aura-t-il dans leur hôte, selon vous ?
Oui, alors, une féerie de hausse de taux, en quelque sorte. C'est-à-dire, alors, on revient pour filer avec les États-Unis, donc on s'attend effectivement, une hausse de 50 points de base comme cela a été déjà annoncé, c'est ce qui est retenu dans les cours sur les marchés monétaires. Et comme on le disait sur le PPI, donc les prêts à la production, les prix à la consommation la semaine prochaine sont eux aussi attendus aux alentours de 0,3-0,4%, plutôt 0,3 d'ailleurs, ce qui nous amènerait effectivement le glissement annuel aux alentours des 7,5-7,6%. Et donc, on continue effectivement ce processus de ralentissement progressif de l'inflation. Donc, ça devrait aider effectivement la Banque centrale américaine à ralentir le rythme de ses hausses de taux directeurs. On était avant sur un pas de 75 points de base. Donc là, on reviendrait à 50 points de base. Alors, on va regarder effectivement comment ça se passe sur le futur. C'est-à-dire que si cette hausse est assez attendue, je dirais, par les économistes et par les marchés financiers, c'est le contenu, en fait, de ce qui va nous être donné. Alors, il y a eu un volet anticipation de croissance et d'inflation qui ne devrait pas beaucoup bouger par rapport au trimestre et par rapport au consensus. Ce qu'on peut voir, effectivement, l'attention portera sur les fameux dots, c'est-à-dire, en fait, les anticipations des différents gouverneurs sur le point le plus, leur taux d'intérêt, en quelque sorte, projeté à différentes années, et le point le plus haut pourrait éventuellement bouger vers 5,25%, ce qui traduit à la fois, je dirais, une balance entre un discours qui est plutôt accommodant, puisqu'on ralentit sur les hausses de taux, mais qui reste aussi plutôt conservateur ou vigilant par rapport à l'inflation, puisqu'on n'exclut pas de continuer. Donc on peut avoir dans la conférence de presse qui suivra ces doubles tonalités distillées par M. Powell, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, on ralentit donc les hausses de taux d'intérêt directeur à court terme, mais d'un autre côté, on n'exclut pas le risque de poursuivre encore au premier trimestre, voire même d'aller un petit peu plus haut sur cela avant, et je pense, avant de parler de pause. Et ça, c'est un autre élément de langage sur lequel on attend M. Powell, c'est-à-dire qu'une pause ou un déclin des taux d'intérêt directeur se arrêt, à mon avis, exclu de la conférence de presse ou des propos de M. Powell.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, la Banque Centrale Européenne, là aussi, c'est un tir groupé qui est retenu ou anticipé par les marchés financiers, 50 points de base du côté de la Banque Centrale Européenne. Là, j'ai un petit peu plus de mal à souscrire au consensus et je serai peut-être du côté des Grinch, donc un Père Noël un peu père fouettard. C'est-à-dire 75 points de base, c'est quand même une option qui reste sur la table, je dirais, côté Banque Centrale Européenne, même si la communication de l'ensemble des gouverneurs avait amené les anticipations sur le marché à retenir les 50. Mais ce qui retient mon attention, c'est le fait que l'inflation en zone euro vient juste d'atteindre son pic. On a juste une petite progression, je dirais, qui reste à confirmer, ou une détente, en fait, de l'inflation globale, mais il y a, je dirais, encore pas mal de chemin à parcourir. Alors, même si Mme Lagarde avait mentionné que c'était l'inflation constatée, que c'était aussi avec trois critères, donc l'inflation constatée, les effets cumulés des hausses de taux précédentes, plus, bien entendu, un effet retard entre l'implémentation des hausses de taux et leur impact sur l'activité, qui constituaient les principaux critères pour les décisions futures, je pense, dans mon analyse, que effectivement, il n'y a pas encore suffisamment de confort sur une détente attendue de l'inflation pour passer d'ores et déjà à un rythme de 50 points de base. Donc sur la table, c'est vraiment 50 versus 75 points de base. On aura aussi là des prévisions à horizon 2025 et à horizon 2025 à la fois pour la croissance mais surtout pour l'inflation. 2025, on devrait voir enfin de la part de la BCE le retour à une inflation aux alentours de 2%, ce qui n'est pas le cas pour 2023 ni encore pour 2024.
Ce sera donc sans doute la semaine la plus importante de l'année pour les marchés. Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry, l'Union bancaire privée qui nous accompagne chaque vendredi sur cette vision macroéconomique. Bonne fin de semaine sur le marché. Patrice, fin de semaine qui pour le moment se montre timidement baissière, moins 0,15% pour le CAC, 6637 points.
Votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
La Vie Immo qui accueille ce matin David Bourla. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur des études de Knight Frank France. Alors, l'explosion des mobilités douces aura sans doute été l'une des plus grandes conséquences de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Quelques données que vous avez recueillies et qui permettent peut-être de percevoir cet état des lieux et de voir si c'est une tendance qui s'inscrit vraiment, qui sera durable.
Alors oui, s'agissant des ventes d'équipements, pour commencer, le marché du cycle entre 2019 et 2021 en France, c'est plus 6% en général, mais plus 70% pour les vélos électriques. Et quand on parle de trottinettes électriques, c'est des ventes sur la même période en hausse de 90%. Donc c'est massif. La fréquentation aussi, quand on la regarde, l'augmentation est assez impressionnante. En moyenne en France, les couloirs cyclables ont vu une fréquentation en hausse de 18%, mais de 35% en Île-de-France. Et d'ailleurs, on note aussi la même augmentation dans certaines villes européennes. À Londres, Transport for London vient de donner ses statistiques. Et là-haut, c'est de 40% par rapport à 2019. Donc c'est vraiment un phénomène très important.
Et c'est important pour l'immobilier de bureau ?
Alors oui, c'est important pour l'immobilier de bureau. Alors pour plusieurs raisons. Alors la raison principale, c'est le télétravail, qui est maintenant vraiment ancré dans les modes de travail, dans les organisations. Et quand il s'agit de faire revenir les salariés au bureau, je dirais que le principal irritant, c'est évidemment la qualité des déplacements entre le domicile et les lieux de travail. Et donc, les mobilités douces, donc vélo, trottinette, etc., c'est une alternative offerte aux salariés, par rapport aux autres moyens de transport traditionnels pour améliorer leurs conditions de déplacement. Donc oui, ça joue sur l'immobilier de bureau et ça va jouer de plus en plus. Et les entreprises en sont conscientes puisque dans la recherche de bureaux, c'est aussi l'accessibilité, un facteur qui devient essentiel pour elles.
C'est-à-dire que, au vu des enjeux que vous avez rappelés, on imagine effectivement que le sujet est donc pris en compte par les propriétaires de bureaux ?
Oui, alors ça se fait petit à petit, c'est assez récent. Il y a eu quelques précurseurs, je parlais par exemple de la Bicycle Initiative, qui est une initiative de place impulsée notamment par ICAD il y a un peu plus d'un an. Il y a des investisseurs pionniers comme Invesco, comme Perial, et il est intéressant de noter que souvent chez ces investisseurs, l'impulsion a été donnée par des gens qui sont même des usagers des mobilités douces et qui sont donc au fait des problématiques liées à leur utilisation. Mais dans l'étude qu'on a fait paraître, donc sur le sujet des mobilités douces, on a interrogé les plus grands investisseurs de la place, et 90% constate aujourd'hui une demande accrue en matière d'intégration des mobilités douces dans les immeubles par leurs locataires ou leurs prospects. Donc ça devient vraiment un sujet important.
Donc ça veut dire que quand on veut ISRiser son bâtiment, entre guillemets, il faut aussi prendre ces idées en jeu, quoi.
Ouais, tout à fait, parce que les mobilités douces, c'est finalement un levier qui est relativement facile pour remplir cette stratégie ISR par le biais de la décarbonation des déplacements des entreprises. Et puis pour un propriétaire, c'est aussi un moyen de faciliter de plus en plus la commercialisation de ses actifs. Alors je dis pas que c'est un critère aujourd'hui qui est absolument essentiel pour un immeuble, mais ça devient problématique quand l'immeuble est pas adapté. Et puis c'est aussi une façon de valoriser des surfaces qui sont aujourd'hui peu ou moins utilisées, notamment les espaces de stationnement pour voitures.
Et du coup, c'est pas tout le temps facile d'intégrer ces choses-là.
Alors non, ça dépend beaucoup de votre bâtiment, de sa situation. Quand vous êtes en deuxième couronne ou en première couronne peu dense, vous avez plus d'espace, donc c'est plus facile d'aménager des espaces souvent à l'extérieur de l'immeuble de bureau. Quand vous êtes en première couronne dense ou au cœur de Paris, là c'est plus compliqué parce que le bâti ancien n'est pas forcément adapté. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette question de l'adaptation du patrimoine existant aux nouveaux usages, c'est vraiment un sujet clé de l'immobilier dans les années à venir.
Comment on fait justement
Alors, il y a des solutions. Il y a de plus en plus de solutions parce que l'écosystème des mobilités douces est en train de se structurer et qu'il y a de plus en plus d'experts, d'aides qui peuvent venir appuyer les maîtres d'ouvrage, les propriétaires pour faciliter et trouver des solutions pour intégrer les mobilités douces dans leur patrimoine. Donc, j'ai parlé de la Bicycle Initiative. Vous avez les experts de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et le label employeur ProVélo, des startups de la mobilité douce qui sont de plus en plus nombreuses, comme Starbolt par exemple, des conseils en immobilier d'entreprises comme Knight Frank qui sont sensibles au sujet, et puis des nouvelles certifications. De la même façon que vous avez des certifications environnementales depuis des années qui notent un immeuble par rapport par exemple à ses consommations d'énergie, vous avez des certifications aujourd'hui dédiées aux mobilités douces comme ActiveScore, qui est une certification qui nous vient du Royaume-Uni et qui petit à petit se développe dans l'Hexagone.
Bon, parce que c'est donc pas que de effectivement de faire un local vélo ou autre en bas de l'immeuble, c'est tout l'environnement qu'il faut reprendre en compte aussi.
Alors oui, c'est bien plus
c'est
que
ce
ça.
C'est ce que révèle votre étude.
Oui, ouais, tout à fait. C'est bien plus que ça. C'est pas seulement des aménagements, c'est aussi des services dédiés aux usagers. Et puis, c'est pas seulement une question d'immeuble en lui-même, mais vraiment de son environnement et de son accessibilité. Et dans cette étude, on a interrogé, là encore, donc des propriétaires, mais on a aussi essayé de mesurer la cyclabilité des différents secteurs tertiaires d'Île-de-France à partir d'indicateurs objectifs, comme par exemple la longueur des pistes cyclables, leur fréquentation, la densité de l'offre de mobilité partagée, donc Vélib en particulier, et puis des indicateurs plus subjectifs comme le ressenti des usagers, notamment en matière de sécurité, ce qui est particulièrement important pour favoriser la pratique. Et on partait d'un constat assez simple, c'est qu'avec la crise sanitaire, les entreprises sont non seulement de plus en plus exigeantes sur la qualité de leur immeuble, mais aussi sur l'accessibilité de leur immeuble. Et donc, cette analyse des différents secteurs tertiaires d'Île-de-France place évidemment Paris en tête, ce qui est plutôt logique. On est au cœur de l'agglomération, ouais. Les infrastructures sont très développées. Donc, Paris, je dirais, est presque devenu un paradis pour vélo-taffeurs, même s'il y a encore quelques efforts à fournir. C'est plus compliqué en première couronne. Vous avez un secteur intéressant qui est celui de la Défense, à l'ouest,
ouais.
Qui part de loin, puisque le quartier a vraiment été conçu à l'origine.
Pour la voiture.
Ouais. Exactement. Donc on part de loin, mais on aurait pu penser que le quartier serait moins bien noté par rapport à l'intégration des mobilités douces, du fait justement des caractéristiques de la Défense. Mais l'établissement Paris La Défense notamment fait plus en plus d'efforts pour mieux intégrer les mobilités douces, créer de nouveaux cheminements. Il y a des projets de réaménagement du boulevard circulaire, on promet la culture vélo. Donc ça c'est un point assez positif. Et puis ailleurs en première couronne, vous avez les bons élèves, Montreuil par exemple, ici les Moulineaux, et puis des endroits où c'est un peu plus compliqué pour l'instant, avec des discontinuités de pistes cyclables, des conflits d'usage. Je pense notamment au nord de l'Île-de-France, à des villes comme Saint-Ouen, Saint-Denis. Mais avec les aménagements importants prévus, ça va, je pense, aller dans le bon sens.
Et dans ces cas-là, ce sont les mairies, ce sont les départements, parce que le propriétaire d'un immeuble, il n'y peut pas grand-chose, à part secouer...
Alors, c'est un effort qui est vraiment, je dirais, partagé. Il y a effectivement des plans mobilité de l'État, de plus en plus de plans des collectivités locales. Alors, à Paris, évidemment, les efforts ont été particulièrement importants ces dernières années. Dans le plan vélo 2021-2026, il y a 100 millions d'euros supplémentaires qui sont mobilisés et 180 km de nouvelles pistes cyclables créées.
Eh bien voilà, merci beaucoup d'être passé nous présenter cette étude donc et faire réfléchir effectivement autour de cet immobilier de bureau et des mobilités douces. David Bourla donc pour Knight Frank France. J'arrive à le prononcer sans me tromper, c'est pas mal. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Le marché parisien, lui, il hésite encore une fois et on va voir ce qu'en disent nos traders dans un instant. N'oubliez pas non plus les podcasts, les replays qui vous permettent de retrouver l'émission au moment où vous le souhaitez. Ils sont disponibles sur notre site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, deux traders sont à votre service. On retrouve, comme chaque vendredi, Stéphane Sauduteil en ligne avec nous, en duplex avec nous depuis Technibourse. Et comme au quotidien, c'est Jean-Louis Cussac qui, depuis aujourd'hui, ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil est à son poste. Merci à tous les deux d'être là. Stéphane.
Bonjour.
On n'en finit plus d'hésiter.
Oui, ça c'est vrai que on a hésité toute la semaine en fait. Hein. Alors c'est vrai que en passant en dessous des 6680, on s'est un tout petit peu affaibli, mais on aurait pu penser qu'on se serait affaibli de façon un petit peu plus affirmée. Et puis finalement, non, on baisse un petit peu, on remonte, on baisse un petit peu. On a touché un point bas ce matin de cette semaine à 6625 points. Et puis là, on remonte tranquillement. C'est vrai que les objectifs de baisse était un petit peu plus bas sur la rupture des 6680. On aurait pu peut-être espérer 6550, voire 6450, mais on a l'impression que c'est très très loin et que le marché en fait est en manque de catalyseurs. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de statistiques macroéconomiques cette semaine. On attend quand même l'indice des prix à la production cet après-midi, qui pourrait peut-être finalement nous sortir un petit peu de cette torpeur. Mais c'était peut-être une semaine de transition, avec une semaine prochaine beaucoup plus active, hein, puisqu'on aura les chiffres d'inflation pour le mois de novembre, et puis la réunion bien sûr du FOMC mercredi soir concernant les taux d'intérêt américains, les taux d'intérêt américains qui ont légèrement reflué, ce qui a permis au marché américain de reprendre un petit peu de hauteur, mais ça n'a pas suffi pour redonner le moral aux investisseurs parisiens. Donc si on regarde un peu plus techniquement cette séance, on a une grosse résistance maintenant, 6680-6700. Il faudrait passer au-dessus de 6700 pour retrouver un courant plus haussier, et puis peut-être revenir sur la zone de point haut de ces dernières semaines. Par contre, si on commence à passer en dessous des 6006, là effectivement on pourrait peut-être creuser davantage et aller sur les objectifs que je vous ai cités tout à l'heure, 6550, 6450. Là il faudrait des prix à la production certainement très très élevés pour avoir un tel scénario. Voilà, sinon voilà, la semaine a été quand même très tranquille. En tant que trader, on n'a pas fait grand chose, pas été chercher beaucoup de mouvements, puisqu'ils sont vraiment un petit peu erratiques, ces mouvements, et pas toujours simple à appréhender.
Voilà la vision proposée par Stéphane Sauduteil, Jean-Louis Cussac. Oui, semaine particulière.
Oui, mais vous voyez, par exemple, en étant, comme je vous le dis, tous les matins, systématiquement acheteur sur des replis, j'ai fait un record de transactions. Alors, de gains, non, hein, mais la multiplication, si vous voulez, des petits gains font qu'à la fin, c'est plutôt pas mal. Et encore ce matin, vous achetez sur un repli. Alors, on n'achète pas toujours au plus bas, je le répète. On essaye de moduler aussi, hein, c'est-à-dire qu'on commence, par exemple, à acheter, je sais pas moi, à 50, à 40, à 30. C'est un peu la zone partant de là où on est parti. On a perdu 0,85 en quelques minutes. Et puis voilà, on est déjà revenu à 50. C'est très particulier, hein. On a les 0,85, on les a perdus dans le vide. On est à moins de 400 millions d'échangés. Je vous disais qu'on pourrait terminer la semaine en roue libre. Alors, comme Stéphane a dit, c'est vrai qu'il y a des stats américaines qui peuvent nous faire bouger un peu, mais les investisseurs, si vous voulez, restent dans l'attente des échéances importantes des banques centrales la semaine prochaine avec la BCE et puis la Fed. À part ça, il y a vraiment rien, mais vraiment rien. Sur les mid et small, c'est désert. Il y a pas grand chose non plus. Enfin, il y a presque rien. Il y a les grosses qui bougent un peu, les bancaires qui sont pas trop mal, les écarts sont très faibles par rapport à la séance dernière. Saint-Gobain, plus forte hausse du CAC, 1,7, plus forte baisse Worldline, moins 4, mais elle pèse rien dans le CAC 40. Donc voilà, c'est vraiment de l'attente. Le marché, alors c'est vrai, il aurait pu aller plus bas, mais je n'ai capté à aucun moment un signal qui pouvait me permettre de penser qu'il allait le faire. C'est pour ça que je vous disais tous les jours, non, on continue d'acheter et de faire des écarts. Alors c'est un comportement opportuniste dans une tendance de fond haussière qui est peut-être arrivée au bout de quelque chose. On avait parlé en début de semaine du bout du tunnel. Vous vous souvenez, Cédric, où vous aviez donné cette expression, et je vous disais, ben on l'a déjà payé, la sortie du tunnel d'ailleurs, et on a anticipé déjà beaucoup de choses positives, et on attend. Et on attend les réponses à ces anticipations. Mmh. Et la réponse principale viendra évidemment donc la semaine prochaine. Et en attendant, ben on reste sur des paris spéculatifs, des petites interprétations qui nous viennent de Chine notamment, etc. Mais rien de fort. La période n'est pas propice aux prises d'initiatives importantes. Et sur le plan technique, le marché est cadenassé. Il est cadenassé parce que il n'y a pas de vendeur potentiel dans la mesure où les gérants sont pas suffisamment acheteurs. Bien souvent, attention, il y en a qui ont eu plus de réussite que d'autres. On peut même pas dire que celui qui a pas acheté est mauvais. Simplement qu'il a été prudent, et d'accord, on pouvait le comprendre. Donc, on est cadenassé par un manque de perspectives claires, et on attend les réponses aux questions qu'on se pose.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil, Stéphane Sauduteil, Technibourse. On vous retrouve tout à l'heure, Stéphane. On se donne rendez-vous 11h30 et vous nous faites la métier de suivre cette séance pour cette fin de semaine. Et on en reparle donc à 11h30. Le marché parisien qui, pour le moment, eh bien, se montre toujours hésitant. On est à l'équilibre, pile poil en ce moment, 6647 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Pour la polémique du jour, un chiffre rassurant face aux craintes de pénurie d'électricité. La consommation de courant recule plus que prévu de combien ?
10%. En fait, c'est l'objectif, on y est. Et alors, c'est un chiffre qui a été un peu esquissé par RTE pendant la semaine. Hier, EDF confirme. On est à moins 10% de consommation d'électricité au mois de novembre 2022 comparé à novembre 2021. Et EDF, c'est quand même une assez bonne vigie. Ils ont 70% de part de marché chez les particuliers, entre 55 et 60 chez les entreprises. Voilà, moins 10%, qui est en fait la cible qui a été évoquée jusqu'ici. Ben, nous y sommes.
Comment explique-t-on cette baisse si importante ?
Il y a quatre raisons principales. Quand c'est plus cher, on fait attention et on consomme moins. Et c'est valable, très valable, notamment pour l'industrie qui a largement... Enfin, il y a même des industries qui sont quand même à l'arrêt, hein. Que les coupures de production, ça concerne d'abord les entreprises, donc on consomme moins parce que c'est plus cher. Après, le plan sobriété a été annoncé il y a maintenant 2 mois. Je baisse, j'éteins, je décale. Il y a un moment, ça infuse quand même dans les esprits. Ensuite, il y a le climat un peu d'inquiétude absolument incroyable. Soudainement, là, en l'espace de 15 jours, on a eu l'impression que les coupures de courant étaient pour tout de suite, pour maintenant. Les médias, d'ailleurs, ont participé à cette hystérie incroyable. Le gouvernement a aussi sa responsabilité. Après avoir tenu un discours plutôt alarmiste, plan de sobriété, du col roulé, tout ça, bah maintenant c'est l'inverse. C'est le message, c'est pas de panique, mais c'est le message de la semaine. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, ces allers-retours, la communication chaotique du début Covid, qui finalement a conduit quand même à une cécité et à un déni incroyable dans l'action gouvernementale. Et puis, l'activité ralentit. L'activité qui ralentit, vous avez forcément une baisse de la consommation. Pour ces quatre raisons, on a aujourd'hui une consommation qui recule de 10%.
Ça voudrait dire que les risques de coupure de courant sont un peu exagérés ?
Alors à ce stade, sans doute. D'abord, on se dirige vers Noël, Nouvel An. C'est une période où on risque rien. Parce que là, tout le monde est en famille. Et la plupart de l'économie productive sera au ralenti, voire quasiment à l'arrêt, parce que c'est la trêve des confiseurs. Après, on a eu aussi des chiffres d'RTE hier sur le fait que l'industrie a très largement commencé à faire des économies d'énergie et des économies d'électricité. Mais ça y est, le secteur tertiaire et le résidentiel s'y mettent aussi. Et là, on a un chiffre donc de RTE sur la semaine. La semaine passée, la consommation tertiaire et résidentielle a été inférieure de 7%. Comparé à une semaine équivalente sur la période 2014-2019, qui est la période qu'on observe. Après, vous avez un juge de paix, c'est la météo. Hein. Si vous avez 10 degrés sous les normales de saison, tout ce que je vous raconte là, vous prenez et puis hop, vous déchirez, parce qu'évidemment, les choses se passeront différemment.
Qu'est-ce qui peut raisonnablement nous inciter à l'optimisme ?
On a eu une enquête Elab pour BFM TV où 60% des Français disent très sérieusement qu'ils sont prêts à répondre aux appels de baisse de consommation. Après, il faut voir que le dernier blackout en France remonte au mois de décembre 1978. C'est donc pas quelque chose qui se produit de manière régulière. C'est vrai que ce jour-là, j'ai oublié la date précise, pendant 4 heures, on a les 3/4 du pays dans le noir. Bon, il se trouve qu'ils s'y sont écoulés 44 ans depuis cette date. Aujourd'hui, RTE a quand même des outils beaucoup plus fins de pilotage du réseau électrique. Aujourd'hui, les interconnexions entre les pays pour pouvoir importer du courant en cas de pic de consommation sont quand même beaucoup plus opérationnelles. Et puis, on a ce fameux plan EcoWatt. Et ce fameux plan EcoWatt, il n'est pas si mal fichu. D'ailleurs, il a été déclenché, le plan EcoWatt, en décembre 2016. Il n'y a pas eu d'hystérie. Bon, ce mois-là. Donc, le premier niveau, c'est les appels à la population. 60% disent qu'ils seront sensibles à ces appels. Et à ce moment-là, on peut avoir un effet assez rapide. Ensuite, il y a les délestages qui sont inscrits dans les contrats des industriels. Ils sont rémunérés pour ces délestages. C'est parfaitement organisé. Et ensuite, troisième étape, c'est la baisse de tension. On va jusqu'à 5% de baisse de tension sur l'ensemble du réseau. 5% de baisse de tension, il n'y a pratiquement aucun ménage qui s'en rend compte dans son logement. Et enfin...
C'est un éclairage un petit peu... Voilà. Un chat portable qui se recharge un peu moins vite.
Par exemple. Ou alors si on est vraiment très rural et très très en bout de chaîne. Et enfin, on arrive éventuellement à des coupures temporaires, en théorie 2 heures maximum, parfaitement territorialisées et normalement annoncées. Donc on peut s'y préparer. Le dernier niveau, effectivement, ce serait décembre 1978. À ce moment-là, c'est le blackout. Quand on a dit ça, ça ne doit pas interdire le débat humiliant sur le fait que la première puissance nucléaire civile au monde, qui est la nôtre, est aujourd'hui en manque de production d'électricité et obligée d'importer du courant. Et ça, ce débat doit avoir lieu. C'est pas parce que on est sur peut-être que ça va bien se passer qu'il faut occulter le débat de fond qui est celui-là. Et alors là, la responsabilité politique, ce sera l'objet d'une nouvelle chronique, tiens.
Eh ben, on l'attend avec impatience. Nicolas Dose, pour la polémique du jour, tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché qui fait du surplace, une fois de plus, on a vraiment l'impression, et nos traders nous en parlaient il y a un instant, d'avoir quasiment photocopié les séances jour après jour et trouvé ces matinées où le CAC passe du vert au rouge tout en restant fortement à proximité de son niveau de clôture de la veille. C'est le cas en ce moment puisque l'indice est inchangé, 6647 points, et c'est pile le niveau de clôture d'hier soir. Ailleurs en Europe, vous prenez la photocopie et c'est idem. L'Eurostock 50 grignote 0,05%. Allez, quelques arbitrages quand même. À la hausse sur le CAC, Saint-Gobain, Capgemini et Veolia. À la baisse, Worldline, Stellantis et Total Energy. Et puis, du côté du SRD, on peut signaler Excel Industries qui reprend 4,47%, 51,40, tandis que Arcos perd 9,7% à 5 centimes. Du côté des devises, l'Eurodoll 1,0554.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin, comme chaque vendredi, François Monnier pour la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Et aujourd'hui, en plateau, Romain Burnand pour Moneta Asset Management. Bonjour Romain.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Rebond de ces derniers mois, baisse limitée du marché des actions depuis le début de l'année. Est-ce que les problèmes sont derrière nous, Romain ?
Ben oui, on pourrait le penser à regarder le marché. Finalement, il ne s'est rien passé depuis le début de l'année dernière. Et pourtant, le début de l'année dernière, on était au plus haut historique, et entre-temps, on a eu tout ce que vous connaissez, et notamment la perspective de pénurie d'énergie. Alors, oui, il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est que les résultats des entreprises sont restés excellents. Et donc, les sociétés sont plutôt saines, ont des bons cash flows, n'ont pas de problème de dette, leur dette est souvent bien structurée. On a quand même eu des décélérations sur les secteurs qui avaient bénéficié du confinement, du Covid. On l'a vu, moins de ventes de PC, moins de ventes d'équipements de la maison, de décoration, d'ameublement. Mais on a l'inverse avec le post-Covid, hausse du tourisme. Les restaurants sont pleins dans la plupart des grandes villes de France. Les hôtels, les prix sont montés à la hausse. On manque de personnel dans ce secteur-là. Et puis, il y a aussi de nombreux secteurs qui restent porteurs. Des sociétés continuent leur transformation digitale. Les sociétés de services informatiques ont plus de mal à recruter qu'à trouver des clients. Ça se voit aussi dans la R&D externalisée. On a aussi des sociétés qui sont rentrées dans la crise avec des carnets de commandes extrêmement importants et qui doivent continuer à les délivrer. C'est le cas notamment dans la construction. Eiffage a récemment publié un chiffre d'affaires record pour son carnet de commandes. On l'a aussi sur Airbus, bien sûr, qui a aussi des difficultés de production avec un carnet de commandes qui assure plusieurs années de production. On l'a aussi sur Alstom. On l'avait aussi jusqu'à récemment sur le secteur automobile, qui a toujours des stocks qui sont bas, même si la production commence à recommencer. Donc on a une force acquise de l'économie qui fait que finalement le ralentissement, on l'attend, mais on le voit pas toujours de manière globale.
François, c'est vrai que c'est... même si on prend le CAC 40, moins 7, je pense que s'il y a un an, on avait pronostiqué tout ce qui allait se passer cette semaine et dire que le marché ne perdrait que 7%,
oui,
on aurait signé tout de suite, non ?
Absolument. Quand on voit la guerre en Ukraine, le choc énergétique, l'inflation, le contexte géopolitique... on pourrait se dire finalement moins 7 c'est pas grand chose, mais ça masque de fortes disparités de cours, hein. D'abord ça masque l'effondrement de la tech. Quand on regarde le Nasdaq, il fait près de moins 30%. Et on a quand même Meta qui perd les deux tiers de sa valeur, on a Tesla qui a perdu la moitié de sa capitalisation, on a Microsoft qui perd plus de 25%. Donc on a eu des Apple, plus grosse capitalisation mondiale à plus de 2000 milliards d'euros, qui perd 20%. Donc on a eu des géants qui ont mis un genou à terre.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que pendant une décennie, on s'était dit qu'on est, on a une taille significative, avec l'afflux d'argent via les ETF, eh bien, on a l'abri des soubresauts. Eh bien non, au cours de l'année 2022, on a eu un véritable travail qui a été fait avec des acteurs qui ont gagné et des acteurs qui ont perdu. Donc il y a toujours une rotation. Donc la tech a formidablement souffert, mais on a eu le retour parmi ces géants, eh bien sur le quand on voit les prix de l'énergie, ça a profité bien sûr à ExxonMobil qui a gagné près de 70% cette année. On a eu Chevron qui est en forte hausse. Donc on a des géants aussi qui ont contrebalancé la chute de la tech. On a les valeurs de santé qui ont très très bien tenu et pas mal d'acteurs dans le domaine des paiements aux États-Unis, les Mastercard, les Visa. Donc parmi les géants, donc il y a eu un vrai tri qui a été fait au cours de cette année. Donc oui, c'est vrai, quand on regarde le Dow Jones, c'est le CAC 40 qui font maintenant quasiment jeu égal avec un recul, j'ai envie de dire, limité de 7%. À l'intérieur, il y a d'énormes disparités. Mmh. Et on retiendra de cette année 2022 que la hausse des taux, elle a fait très très mal aux valeurs de croissance et à la tech.
Ouais, c'est vrai que cette hausse de taux, elle est là. Et elle va être encore bien là. On a le Noël des banques centrales la semaine prochaine où on hésite entre 50 et 75 points de base un peu de part et d'autre de l'Atlantique. Ça veut dire que ça va finir par avoir un impact ?
Les banques centrales veulent ralentir l'économie limiter la hausse des prix. Alors c'est clair. Alors la hausse des prix a plutôt surpris légèrement positivement sur la période récente. Ceci dit, on verra bien si les taux, si la hausse des prix revient rapidement à 2% seulement. À voir. Donc la hausse des taux effectivement n'a pas un impact très fort à court terme sur l'économie, notamment en France. Les crédits immobiliers, au particulier en France, sont à taux fixe. C'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. La dette des entreprises est relativement bien structurée. Alors ça a bien sûr un effet sur la valorisation des valeurs de croissance. C'est aussi un effet sur la valorisation, ou en tout cas l'absence ou la difficulté maintenant au fond de LBO de trouver des financements pour de nouvelles opérations. Donc on voit le nombre de financements pour nouveaux LBO a complètement diminué, en baisse de plus des deux tiers sur le dernier trimestre. Donc c'est un impact plutôt sur la finance. C'est un impact sur éventuellement la valorisation des actifs des fonds de private equity. Ça n'a pas un impact important sur l'économie réelle. Donc ce qui peut avoir un impact important sur l'économie réelle, c'est la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Les ménages sont partis quand même avec des réserves faites pendant le Covid. On voit quand même certains segments de consommation, et aujourd'hui c'est plutôt le low cost qui montre bien qu'il y a des couches de la population qui sont très pénalisées au niveau de leur pouvoir d'achat. Et on risque d'avoir une évolution qui a dans le sens, c'est-à-dire un ralentissement progressif. Il n'y a pas eu de cassure. On a bien eu des cassures dans les crypto-monnaies, mais on n'a pas eu de cassure, on n'a pas eu de faillite magistrale dans l'économie. On a des sociétés qui sont mal en point, il y a bien sûr des sociétés qui font faillite, mais le taux de faillite est resté extrêmement bas. Donc on est plutôt peut-être vers un engrossissement de l'économie qui pourrait durer éventuellement quelques temps.
Vous redoutez finalement que cette course à l'échalote des banques centrales finisse par... parce que c'est leur but de créer des impacts sur l'économie, sur la croissance, mais que ces dégâts, finalement, soient trop forts.
Ça, c'est un des risques. Ce qu'on peut se dire, c'est quand même que on a le sentiment qu'il y a quand même un consensus pour dire que l'essentiel de la hausse des taux a été réalisé au cours de l'exercice 2022, où si on prend l'exemple de la Banque Centrale Américaine, on est passé de 1 à 4%. On devrait atteindre les 5, voire 5,25 ou maxi 5,50, donc il reste peut-être 1,50 à aller chercher pour la hausse des taux directeurs. Donc l'essentiel du travail a été fait. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'à un moment donné, cette hausse de prix, que ce soit sur les taux qui pénalisent le marché du crédit immobilier et cette hausse de taux inflationniste qui pénalise la consommation, sera un impact sur les comportements des consommateurs, voire des accédants à la propriété immobilière. Donc, mais il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'on va se dire que sur 2022, on va retenir que finalement on avait un problème pour produire, on avait un problème d'offre, parce qu'on parlait beaucoup de pénurie de composants. On voit que ces situations de pénurie de composants, d'équipements, etc., ça devrait être résolu au cours de 2023. On a beaucoup de signaux positifs qui montrent que ça y est, la chaîne de production, les flux repartent et on va vers une normalisation. Donc on n'est plus sur un problème d'offre, on va être sur un problème de demande. Donc il y aura toujours des problèmes à régler et c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais sur un marché. Mais on va passer d'un problème d'offre à un problème de demande et c'est là que la grande question 2023, c'est comment va réagir le consommateur, comment va réagir la personne qui achète des biens immobiliers, parce que là on voit que les taux, ils ont considérablement augmenté.
Pour répondre à toutes ces questions que François pose sur la table, il y a des indicateurs avancés qui nous permettent de, peut-être pas d'avoir des certitudes, mais d'ébaucher quelques réponses.
Oui, bien sûr. Vous avez deux indicateurs qui sont par exemple les taux à long terme. François parle des taux à court terme qui montent 5%, c'est beaucoup. Mmh. Quand vous avez un taux à 5% d'une économie, vous pouvez dire, je peux différer un peu ma consommation parce que mon épargne, même à court terme, est bien rémunérée. En revanche, les taux à long terme sont plus bas que les taux à court terme. Ce qui montre bien que les acteurs de la vie économique, ou en tout cas le marché obligataire pense qu'on va avoir, on va vers un ralentissement économique. En France, les taux à long terme de proche de 2%, ils étaient à 2,7% récemment, alors ils étaient à zéro. C'est quand même des taux qui restent très bas et qui, à mon avis, montrent une inquiétude. Il y a un autre indicateur qui peut être avancé, c'est le prix du pétrole. Le prix du pétrole est revenu plus bas qu'à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. C'est alors qu'on peut penser qu'un jour la Chine va se réouvrir. Et, mmh. Vous voyez, c'est un peu... ça, ce sont des indicateurs financiers avancés qui montrent qu'il y a quand même une inquiétude dans le marché. L'autre indicateur avancé d'inquiétude dans le marché, c'est la différence de valorisation entre les valeurs qui sont très défensives et qui sont très très chères et celles qui sont soumises à des pressions éventuelles cycliques qui sont très peu chères. Et puis enfin, il y a des indicateurs avancés quand on interroge les ménages. Et par exemple, les intentions d'achat de véhicules automobiles sont en train de baisser de manière importante. Donc on pense qu'on va vers un ralentissement important. Et en tout cas, celui est pricé en bourse. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?
Ça vous va, ces indicateurs-là ? Ou il y en a d'autres auxquels vous pensez ?
C'est absolument ça qu'on surveille. Et on sait que généralement, les prix de l'énergie, notamment, ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est le comportement des ménages vis-à-vis de l'immobilier. Parce que on a beaucoup de personnes sont convaincues que l'immobilier c'est pas un marché cyclique, parce que c'est un marché qui en gros progresse régulièrement depuis 97-98. Il y a eu une petite pause après Lehman Brothers, mais pas grand chose. Donc le sentiment que on s'enrichit avec l'immobilier, c'est quelque chose qui va peut-être changer parce que on commence à observer des prix qui commencent à non seulement à tasser, mais à reculer. Donc ça, et l'immobilier, on sait que si jamais il y a une crise immobilière, c'est quelque chose qui a énormément d'impact, parce que bien sûr, c'est l'essentiel de l'épargne des ménages, pas seulement français, mais au niveau mondial. Donc il faut surveiller l'immobilier. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui peut provoquer des dégâts. On n'en est pas là, mais ça, c'est un indicateur qu'il faut surveiller. Oui.
Bon, du coup, on investit où ? Enfin, d'abord, on investit ou pas ? Et si oui, où ?
Alors, on investit parce que nous, c'est notre métier. Et on investit où ? Alors, on n'investit pas forcément tout son patrimoine. Nous, dans les fonds monétaires, on a 10% de liquidité. Donc, c'était avisé avant la crise. Ça n'a pas été avisé sur la période récente. À mon avis, on doit investir dans deux directions principales, alors, en termes de stock picking. Soit les sociétés sur lesquelles on a une bonne visibilité sur l'année 2023. Mm-hmm. Soit parce qu'il y a des carnets de commandes et il y a des exécutions qui ne sont pas en risque. Je pense par exemple une valeur comme Eiffage, c'est une valeur qui n'est pas fortement valorisée. Soit des valeurs qui sont très très peu valorisées parce que le marché est très inquiet, et ça peut être des banques. Alors on prend un risque bien sûr, mais je pense que c'est un risque qui est bien rémunéré à moyen terme. Et on évite plutôt des valeurs qui sont des stars aujourd'hui. François a parlé des valeurs de la tech qui avaient été des stars. Une valeur qui est star et qui déçoit un peu, ça peut aller très vite en termes de dépréciation de son cours. Donc nous, on préfère les éviter.
D'autres, enfin, vous voyez les choses comment en termes d'investissement ? D'abord, chez Investir, on investit ?
Oui.
Et dans quoi ?
Prudemment, parce qu'on pense que le rebond, il a quand même été, il a été violent et tout n'est pas résolu. On a quand même beaucoup encore d'incertitudes. Par exemple, la Chine, on parle de déconfinement, mais est-ce que ce déconfinement, ça va pas générer une nouvelle crise sanitaire ? Donc, il reste encore quand même quelques incertitudes. L'Ukraine, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc il ne faut pas non plus dire c'est pas parce qu'il y a un rebond que ce rebond on peut le redupliquer, on va regagner encore 20% dans les deux mois qui viennent. Donc il faut à un moment donné se poser un petit peu. En tout cas, nous, comment on voit voit les choses, c'est un, on pense que la pénurie, le sujet de la pénurie, c'est quelque chose qui va se résoudre. Et donc, c'est intéressant de se positionner sur des sociétés qui ont énormément souffert de pénurie. Donc, avoir peut-être du Katana dans le nautisme, du Trigano pour les loisirs ou du Stellantis, où on a des valorisations qui sont extrêmement faibles aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut constituer une partie du portefeuille.
D'accord.
Avoir un peu de valeur technologique qui, après des baisses de 25, 30 ou 40%, eh bien, ça se regarde à nouveau parce que l'écart de valorisation qu'on pouvait avoir entre ce qu'on appelait la value et la croissance s'est considérablement réduit au cours de l'exercice 2022. Et puis après, il faut, je pense, avoir des valeurs un peu acycliques. Je pense notamment au secteur de la santé, où on se dit, là, sur ces sujets-là, on ne se pose pas la question sur est-ce que le ralentissement il sera léger, moyen, fort, ou est-ce qu'on va vers un risque de récession, parce que le modèle économique ne dépend pas du tout de ce genre de considération.
Merci à tous les deux d'avoir éclairé un petit peu ce marché en cette fin d'année. On se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez tous les deux aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, on retrouvera Regard croisé et puis au début de la prochaine demi-heure, les idées de fond avec Morningstar. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.